Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h45, dans un instant vous pouvez nous appeler 0826-300-300 pour échanger avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel. En attendant, on fait un petit point sur la revue de presse avec Benjamin Glaize.
Oui, Benjamin, en une de beaucoup de journaux, c'est Emmanuel Macron.
Bah oui, forcément avec beaucoup de questions ce matin. Que va-t-il décider dans la dépêche du midi? Va-t-il trancher pour ce qui est de la Provence? Alors que l'épidémie semble hors de contrôle, le chef de l'État pourrait annoncer de nouvelles restrictions, voire même un reconfinement selon la Provence. D'ailleurs, c'est la une du Figaro, un Macron sous la pression des partisans du reconfinement. Malgré l'offensive d'une partie du corps médical, le président cherche toujours une voie de passage. Dans l'édito, le Figaro affirme que si l'on avait suivi les sachants et autres pontes de la médecine, papy et mamie seraient encore cloîtrés dans la cuisine et nous vivrions jusqu'à la chambre à coucher encore masquée. Fin de citation.
Oui, et même sujet d'ailleurs dans le journal aussi, Les Échos, qui parle du dilemme de Macron.
Mais oui, en ce jour de Conseil de défense sanitaire, le seuil des 5000 patients a été franchi en réanimation hier, avec aussi au cœur des débats la fermeture des établissements scolaires, un sujet également en une de Corse ce matin avec ce titre, l'école sur la corde raide face à la poussée du virus, hausse des cas positifs, inquiétude des parents et des personnels, la situation se tend, aujourd'hui en France évoque l'angoisse des parents quant aux fermetures d'écoles. On va devoir recourir aux grands-parents mais ils ne sont pas encore vaccinés, témoigne notamment un papa qui ajoute si mes enfants les contaminent, je m'en voudrais toute ma vie.
Oui, c'est vrai, et puis il y a ces personnels qui en charge de la petite enfance aussi, qui sont fortement mobilisés. Vous pouvez réécouter en replay, bien sûr, ou en podcast, ou sur notre site, l'un des intervenants, le président de la Fédération, qui était avec nous tout à l'heure. Merci, Benjamin. Un mot de football, simplement. L'équipe de France sera très offensive ce soir. Quatre attaquants, c'est ça,
c'est
Benjamin,
ça.
C'est en une de l'équipe.
Voilà, c'est classique au niveau des attaquants. Griezmann, Mbappé, auquel on rajoute Dembélé, Coman, et puis à noter tout de même du côté de cette équipe en face de Bosnie, avec quelques stars, Pjanic du FC Barcelone, Dzeko de la Roma et puis un Nîmois aussi, un joueur de Ligue 1 en l'occurrence, l'attaquant Haris Dulcevic, 17 matchs joués en Ligue 1 cette saison pour une passe décisive.
Oui, attention aux mauvaises surprises. On poursuit avec Adrien Vergnol, chef des informations à Sud-Ouest qui est avec nous. Bonjour Adrien.
Bonjour.
En une de Sud-Ouest ce matin, qu'est-ce que vous avez choisi?
On a été dans un service de réanimation au CHU de Bordeaux,
oui.
pour voir comment ça se passe en réa à Bordeaux. C'est assez édifiant, on rencontre des soignants fatigués qui sont au bout du rouleau, qui en ont marre. Et surtout, on découvre qu'à Bordeaux, vous savez, qui a été assez épargné jusqu'ici par les vagues successives. On est dans notre vague à nous. Ça monte, la pression monte et justement, on revient au sujet que vous évoquiez juste avant. Voilà, tout le monde attend un petit peu de savoir si le président parle ce soir, qu'est-ce qu'il peut dire. On se rend compte qu'effectivement, il y a eu une sorte de relâchement en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, c'est ce que disent les médecins, qu'on est en train de payer un petit peu aujourd'hui. Donc, effectivement, ici comme ailleurs, se pose vraiment cette question du reconfinement, en tout cas des mesures drastiques à prendre, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours.
Oui, c'est vrai. Il y a relâchement, c'est ce qu'on nous disait du côté de Montpellier aussi ce matin, quand on était avec un patron du CHU de Montpellier. Il y a du relâchement et donc il y a de nouvelles personnes qui arrivent, même si on peut espérer. Ce qu'il nous disait quand même, avec d'un côté la vaccination, alors je sais qu'il y a des réticences, mais quand même, on était en Angleterre tout à l'heure, il y a beaucoup moins de victimes, quoi, parce qu'ils ont vacciné massivement, et puis ensuite, ils avaient confiné pendant un petit bout de temps, mais attention au relâchement pendant quelques semaines. Merci.
Surtout que ce qu'on explique, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça avait été prévu, il ne se passe rien de surprenant. Donc.
Oui,
ça peut poser des questions.
Voilà. Est-ce qu'il y a des, notamment des Parisiens, des citadins qui sont venus déjà dans la région, là, se réfugier, entre guillemets, pour certains contaminés?
Ils sont venus, mais c'est dur à dire s'ils sont réfugiés ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons secondaires, c'est vrai.
Ouais.
Néanmoins, voilà, on ne peut pas parler d'une invasion extraordinaire. Ouais. Néanmoins, ça existe, et puis surtout, on voit fleurir beaucoup de panneaux, d'affiches anti-parisiens.
C'est vrai.
Ce sentiment-là, ça se voit un peu au Pays Basque et sur le bassin d'Arcachon, effectivement.
Ouais,
voilà, personne n'a noté d'invasion particulière. On pense même que les gens qui ont une maison secondaire sont déjà là en fait depuis longtemps. Ils sont jamais vraiment rentrés quand ce sont des retraités notamment.
Oui, les retraités c'est plus facile. Pour les autres qui ont normalement un travail et puis des enfants, c'est peut-être ça. Un petit peu plus compliqué. Merci beaucoup. C'est à lire tout ça dans Sud-Ouest ce matin et sur le digital. Merci Adrien Vergnol.
Merci.
Et tout de suite, le petit déjeuner de l'actu avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel, avec une prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à 20h.
Oui, a priori, c'est confirmé, il devrait y avoir cette prise de parole. J'ai a priori, parce que soyons quand même prudents, même si on l'annonce, vous savez, bien souvent, ça change, mais il y a le Conseil de défense ce matin. Oui, Elisabeth, oui, c'est ça.
Non, je voulais juste dire qu'on ne dit plus Emmanuel Macron, on dit notre grand leader Maximo, ou le phare de la pensée.
Ah bah ça y est,
cité Eric tout à l'heure, le grand épidémiologiste, ou le... Je ne sais pas, mais...
Que vous êtes moqueur. Voilà.
Il faut garder le sourire. Quand même.
Non mais je propose aussi pour Patrick, hein. Peut-être un nom à sa mesure.
Oui, c'est ça. Appelez-moi Patrico, alors. Patricio, non bon, donc... cette fois-ci, donc, a priori, intervention. Ce qui veut dire que s'il intervient... normalement, Alexis Poulain, ce n'est pas pour ne rien dire, quand même. Quoi, parce que ce que vous disiez ce matin dans la chronique, c'est qu'il intervient beaucoup pour ne pas dire grand-chose.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on attend sa parole, mais il ne fait que parler. Alors, une interview par-ci, au JDD, à une chaîne grecque, à l'international, etc. Les petits bruits de couloir. Là, s'il fait une annonce officielle à la nation, c'est pour dire quelque chose d'important. Alors, soit... que je disais ce matin, l'annonce effective de l'arrivée massive des doses de vaccins et de la campagne qui va prendre toute son ampleur, et donc des 10 millions, du cap des 10 millions de Français vaccinés pour le 15 avril, soit la fermeture des écoles dans certains départements, là ce serait plutôt une mauvaise nouvelle, mais bon, s'il faut faire ça pour stopper le virus, aujourd'hui, si vous écoutez un peu les médecins, il y a un consensus pour dire qu'il faut à la fois vacciner massivement et en parallèle, bien s'il faut reconfiner dans certains cas, parce qu'on n'a pas le choix pour limiter la propagation du virus. C'est une course contre le virus. Donc, est-ce qu'il va annoncer ça, à la fois vaccination et en même temps des mesures de reconfinement, hein, entre guillemets, puisqu'on est censé être confiné en ce moment. Mais sauf que plus personne ne comprend. Hier, il y a eu ces images à Lyon.
Sur
les bords de Saône. Ouais. À Lille également. Plus les Français qui ne comprennent plus, finalement, ce qu'on leur demande de faire. Ce qui, pour moi, est le plus grave. C'est qu'il n'y a aucune clarté dans la gestion stratégique maintenant de ce virus.
Elisabeth Lévy et Éric Revel.
Moi, j'ai quand même l'impression, au risque de me répéter, cher Alexis, j'ai tout de même l'impression, si vous voulez, que ce qu'il essaye de faire, c'est effectivement de ne pas nous reconfiner, de ne pas vraiment nous confiner. Donc ça me paraît être un objectif assez clair et qui plus est légitime. Simplement, effectivement, alors j'entends des gens qui disent oui, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, en gros, avoir des espèces de boutons, c'est-à-dire on arrive à telle donnée, on confine. Mais ça ne marche pas comme ça. Une société humaine, ça ne se gère pas simplement avec des courbes et des boutons. Donc moi, je trouve que tout le monde est un peu injuste, en fait, avec le président sur ce coup-là.
Ah.
Oui, c'est vrai. Non, mais... Je trouve pas, si vous voulez, que... Je trouve que prendre des risques, c'est l'essence même de l'activité du pouvoir.
Oui. Non, mais bien sûr.
Les gens qui ne prennent aucun risque, effectivement, ne risquent pas de se tromper.
Mais il faudrait que ce soit clairement affiché et de dire, nous allons éviter un confinement. Et moi, je suis pour éviter ça un maximum. Mais je pense que la plupart des Français également ne souhaitent pas être confinés, même si vous avez d'un côté des médecins qui demandent un reconfinement, mais que ce soit annoncé, qu'on explique, et surtout pour que ce soit accepté, qu'on ait un horizon, c'est-à-dire qu'on ait des dates clés. Donc il y a effectivement le 15 avril sur les 10 millions, mais qu'on ait des dates, par exemple, de réouverture des restaurants, de réouverture des lieux de spectacle. On n'a aucune date.
Oui, mais parce qu'on n'est pas suffisamment...
Vous lui demandez d'être Madame Irma, là.
Oui. Non, Éric Revel, c'est peut-être parce que...
Regardez, en Angleterre, ils ont des dates, ils savent que dans 15 jours, les pubs vont réouvrir.
Oui, bon, Éric Revel, c'est peut-être aussi parce que là, justement, on n'est pas très bien organisé. C'est ce que disait le maire de Cannes, qui était notre invité tout à l'heure à 7h40, quoi. On a des problèmes d'organisation, quoi.
Ben, on a un double problème d'organisation, et après je reviens sur le point d'Elisabeth. On a un double problème d'organisation. On a un problème bureaucratique européen qui nous a, évidemment, l'Europe nous a planté sur les vaccins, puis on a un problème bureaucratique français, on le sait, sur notre système de santé, les lenteurs, les lourdeurs, enfin voilà, double bureaucratie qui s'additionne et qui donne le résultat qu'on connaît en France. Sur le point d'Elisabeth, je le partage. Je vais vous dire, c'est ce que je disais aussi ce matin, c'est que On explique là maintenant que Macron n'a pas écouté les scientifiques et que donc le grand épidémiologiste en chef, hein, dont Richard Ferrand louait la future agrégation de médecine, qu'il n'a pas écouté les scientifiques. Mais sont les mêmes qui, il y a encore quelques semaines, reprochaient aux scientifiques d'avoir pris le pas sur le pouvoir politique. Donc, si vous voulez, il faut quand même s'entendre. Mais je pense que c'est sans doute sa plus importante déclaration, si ce soir c'est confirmé, politique. Je ne sais pas quelles mesures sanitaires il va annoncer, mais ça va être pour lui un exercice particulièrement compliqué, parce qu'il y a l'horizon évidemment de 2022 et d'élections présidentielles. Mm-hmm. Pourquoi politiquement ça va être très difficile ? Parce qu'il a cherché, et pourquoi pas, il a cherché une troisième voie à la française entre des mesures plus légères et des mesures ultra strictes, comme les Britanniques en ont vécu avant d'être vaccinés massivement.
Oui, voilà.
C'est ça le secret de la réussite britannique. C'est un confinement très dur et une vaccination. Donc ce soir, politiquement, ça va être un exercice très périlleux pour Emmanuel Macron, parce qu'il va devoir concilier ses déclarations précédentes et en même temps donner un horizon. Moi, je n'imagine pas un seul instant que s'il doit annoncer un confinement strict, il ne donne pas des dates extrêmement précises, un, sur la vaccination, vraiment, là on ne rigole plus, et deux, comme le dit Alexis, sur la réouverture de commerce,
oui.
Donner une perspective. Parce
c'est
que
ça.
Quand vous voyez ce qui se passe effectivement à Lille, à Lyon, à Marseille où il y a deux jours, 300 personnes ont fait la fête jusqu'à 6h du matin et la police ne pouvait pas rentrer, quand vous voyez ces mouvements qui commencent à s'agréger, c'est-à-dire un ras-le-bol qu'on peut comprendre des populations confinées, il y a la question de l'acceptabilité. Donc l'exercice de ce soir pour Emmanuel Macron, il est extraordinairement politique et extraordinairement compliqué.
Oh ben, c'est vrai. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous. Et puis, Paul, 0826 300 300, vous nous appelez. C'est Paul du Lot-et-Garonne qui sera avec nous. Et puis, d'autres auditeurs également, bien sûr, puisque vous le savez, Parlons Vrai sur Sud Radio, on essaie de se dire les choses. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais ça, c'est normal, ça fait partie de la démocratie, mais chacun a le droit de s'exprimer. Et à notre question, Emmanuel Macron aurait-il dû reconfiner au mois de mars ? Eh bien, vous êtes 75% à dire non, en disant que non, il ne faut pas enfermer des gens sains, par exemple, comme dit Trabel, ni avant ni après, il fallait juste fermer les frontières. Il y en a d'autres qui disent, bah si, parce que si on fermait, si on avait fait un peu comme les Anglais qui n'avaient pas su réagir au bon moment, mais qui aujourd'hui, eh bien, ont des perspectives, parce qu'ils ont su reconfiner quand il le fallait et vacciner, eh bien, aujourd'hui, ils vont pouvoir ouvrir les pubs et se donner un petit peu de latitude pour ressortir. Bon, allez, le débat est ouvert, je ne veux pas trancher pour vous, 0826 300 300.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h02, vous voulez nous appeler 0826 300 300, vous êtes bien entendu les bienvenus ce matin avec Alexis Poulain, avec Elisabeth Lévy, avec Éric Revel, et on sera ravis d'échanger avec vous ce matin. Et je cherche ma fiche, vous le sentez certainement, Patrick Roger.
Oui, bien sûr, dans un instant on va être avec Esther Benbassa, parce qu'on va reparler aussi du projet de loi confortant les principes de la République dans quelques instants. Et puis autre sujet tout à l'heure aussi à 9h15, les troubles du déficit de l'attention avec l'hyperactivité.
Oui. Hein.
Il y a un livre qui vient d'être rédigé avec Hervé Cassis, qui est pédopsychiatre et aux hôpitaux pédiatriques de Nice. Et on parlera d'ailleurs aussi à cette occasion, justement aussi de l'aspect moral des choses aujourd'hui, psychique, qui est très important avec la crise sanitaire qui renforce un petit peu ce problème chez beaucoup qui sont hyperactifs et qui ne peuvent pas beaucoup bouger d'ailleurs. Et la journaliste Marie-Pierre Samitier qui sera avec nous. Mais on poursuit quand même sur l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc ce soir à 20h, c'est confirmé. Pour dire quoi ? Est-ce qu'il faut confiner, reconfiner ? Paul est avec nous, je le disais tout à l'heure, du Lot-et-Garonne et d'autres appels. Hein. N'hésitez pas aussi à réagir au 0826 300 300. Bonjour Paul.
Oui, mais bonjour Patrick, bonjour Cécile et bonjour à vos invités.
Bon, qu'est-ce que vous attendez, vous ? Dans le Lot-et-Garonne, est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce qu'il y a un taux d'incidence élevé ? Parce qu'on regardait la carte là tout à l'heure. Non, pas trop.
Pas très élevé, on a une densité de population assez faible. Alors, hormis peut-être les trois grandes villes, Agen, les quatre, Nérac, Marmande, Villeneuve, où il y a eu un brassage de population. Autrement, on est en zone rurale.
Oui.
Voilà, on est quand même très peu impacté.
Ah ben, vous savez, et Paul, je fais une parenthèse, c'est pas parce qu'on est en zone rurale que ce n'est pas toujours forcément impacté. Malheureusement, j'ai eu du mal à comprendre, je sais pas si vous avez eu cette réflexion la semaine dernière, quand on a parlé du département de la Nièvre. La Nièvre qui a été concernée avec des taux d'incidence très élevés. C'était assez étonnant parce que la Nièvre autour de Nevers, c'est pas non plus, c'est pas Toulouse, Bordeaux, etc. Hein, quand même, hein. C'est le Morvan, vous voyez.
Il y a du brassage. Non, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, bon, on est très peu impactés parce que les gens, quand même, sont sérieux. Je pense aussi à ça.
Mmh, oui.
Dans nos communes rurales, ben, les maires ont fait leur boulot, hein, parce que nous, moi, je vous écoute parler de Macron, je vous trouve très, très, très gentil avec lui. Hein, ouais. Parce que, honnêtement, je lui en veux beaucoup. Non, ouais. Non, il faut quand même mettre les choses en ordre.
Ouais.
Nous, on a fait des ateliers de couture pour faire des masques.
Oui, oui, oui. Non, c'est vrai.
Pour voir le bazar qu'il y avait en France, ça fait plus d'un an que ça dure. Mmh. Là, il fait des conseils de défense. Pourquoi on ne passe pas par la représentation nationale pour avoir de la transparence? Parce que pour rendre la confiance aux Français, il faut arrêter cette parole. La parole de Macron n'est pas rare, il n'arrête pas. S'il n'avait pas parlé de AstraZeneca l'autre fois, on aurait vacciné un peu plus, et il y aurait peut-être des gens vaccinés en plus. Moi, je devais être vacciné par mon médecin traitant, parce que j'ai 57 ans, des problèmes cardiaques, donc eh bien, la dose, elle a été jetée.
Ouais. Elle a été jetée. Ah oui.
Oui, oui, mais oui, comment vous voulez vous faire?
Ah oui, le AstraZeneca l'autre jour.
Ça a été suspendu, ça a été suspendu, donc du coup, les seringues, tout était prêt, on a annulé.
Ouais,
faut voir un peu le bazar que c'est. Ouais. Alors, il peut parler autant qu'il veut, c'est pas gênant, c'est le président de la France. On subit. Les Français subissent aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'adhésion. Il faut le comprendre. Ouais. Moi, je suis très, très inquiet parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a deux choses. Soit les gens vont vraiment être exaspérés et se révolter, ou alors on sent qu'aujourd'hui, tout le monde est apathique, tout le monde subit, on ne sait pas où on va. Et dans les deux cas, c'est très grave. Ouais. Aujourd'hui, il faut redonner de la valeur à la parole politique. Mmh. On a démonétisé la parole politique. Macron, il parle de... C'est n'importe quoi, un discours une demi-heure pour dire n'importe quoi.
Ouais.
À un moment donné, il faut faire 5 minutes, qu'il prenne exemple sur la reine d'Angleterre. Voilà.
Non, mais alors, Paul, c'est intéressant parce que c'est vrai, et c'est ce que disait... Allez, restez avec nous, hein, mon cher Paul. Alexis Poulain, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, à force de parler des petites phrases ici et là, etc., la parole n'est plus rare et elle a moins d'importance, même si ce soir, il y aura beaucoup de monde à le regarder, et à l'entendre sur Sud Radio aussi, quoi. Mais quand même...
Les Français attendent une clarification, c'est ce que je disais. Effectivement, on a l'impression que ça part dans tous les sens, qu'il n'y a aucune stratégie. On parlait d'horizon, d'avoir un cap... tout ça n'existe pas, on a simplement alors on ferme, on ouvre, qu'est-ce qu'on fait le coût des attestations de sortie, c'était quand même le pinacle de ce moment de grand n'importe quoi, donc on a besoin de clarté, voilà, tout simplement.
Ouais. Elisabeth Lévy, Éric Revel, même chose.
Paul, en fait, moi je défends simplement le président sur le fait qu'on dit qu'il a perdu son pari, qu'il a parié. Moi je pense qu'il a eu raison en fait de faire ce choix, et en tous les cas je comprends pourquoi il l'a fait. Maintenant, vous avez raison, il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas. Et là où je vous rejoins, mais totalement, c'est que je ne peux plus entendre ces discours kilométriques. C'est vrai que quand Emmanuel Macron parle, c'est rarement dans la sobriété et dans la, dans la précision. Donc qu'il nous annonce qu'il a... Mais cela dit, vous l'avez dit Patrick, hein, le fait que ce soit lui qui parle, que ça a été annoncé par l'Élysée officiellement, ça veut dire qu'ils auront une décision claire. Pas un vrai faux confinement, pas...
Paul, je voudrais quand même savoir une chose sur ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que l'un des grands enjeux, c'est, alors qu'on soit d'accord ou pas, mais ça reste quand même la vaccination. Il y a les gestes barrières avant, et puis il y a aussi les traitements qui arrivent, parce qu'il y en a qui, en tout cas, diminuent la charge virale. Autour de vous, sur la vaccination, est-ce qu'on a confiance? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même les doses qui arrivent aussi un petit peu partout, du côté d'Agen?
Les gens font confiance, moi ce que je vois, les gens font confiance aux soignants. Ils ne font pas confiance aux politiques, hein, il faut bien le comprendre, il y a une défiance énorme envers les politiques. Nous, on a 3 députés là-même, en Lot-et-Garonne. Pas la peine qu'ils sortent, hein, parce que franchement, ils vont se faire casser la tête. Mais on a confiance dans les soignants. Nous, on a des gens, on les sent motivés. Enfin, moi, je vais régulièrement à l'hôpital, parce que j'ai des problèmes de santé. On a des gens qui sont, ils sont admirables, ces gens-là. Alors, moi, je suis agriculteur, on fait 12 heures par jour, c'est ça aussi. Mais tous ces gens-là sont au service de la population. Et ce qu'on a vu, c'est que la politique sur la santé, ça ne passe pas. Il faut qu'ils arrêtent de faire de la politique avec la santé, ça ne passera pas. Et tous ces soignants qui sont sur les plateaux, qui sont anxiogènes, il vaudrait mieux qu'ils restent dans les hôpitaux, là-bas, chercher des traitements, soigner les patients, prendre des gardes, relever les gens, au lieu d'être sur les plateaux à inquiéter la population, parce que ça ne passera pas non plus.
Oui, non, mais ça, c'est vrai. On a une part de responsabilité, d'ailleurs, nous, hein, les médias. Moi, je me mets dedans aussi, parce qu'on les invite aussi, parce qu'on a envie d'avoir des éclairages et d'en savoir un petit peu plus, comme on a du mal justement à avoir une confiance totale et puis à avoir de la lisibilité sur ce que disent aussi parfois certains élus politiques qui doivent être un peu plus spécialistes, quoi. Oui, Elisabeth, oui. Et non, ensuite, Éric Revel.
Le problème n'est pas que des médecins prennent la parole. Dans une épidémie, c'est quasiment inévitable parce que tout le monde n'a pas pu prendre des cours, enfin, je veux dire, avoir une formation accélérée d'immunologiste comme le président.
Bien sûr.
Donc, c'est tout à fait normal qu'on invite des médecins. Ce qui me pose un problème, c'est leur façon, la façon à la fois péremptoire, anxiogène, là-dessus, Paul a parfaitement raison, et surtout, uniquement émotionnel de poser les problèmes. Et on en a parlé, je crois, je ne l'ai pas dit ce matin, mais la tribune des gens de la PHP, si vous voulez, qui font comme si la situation sanitaire était simplement quelque chose qui était tombé du ciel, la situation des hôpitaux était tombée du ciel, sans que personne dans les hôpitaux n'y ait, ne soit partie prenante, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, demander aux soignants s'ils sont d'accord pour revoir les 35 heures qui ont vraiment mis le bazar à l'hôpital aussi, hein, c'est pas simplement...
Ouais, bah là, non, mais là, vous refaites tout le débat sur l'organisation de l'hôpital. Mais c'est, oui, non, c'est vrai, ça intervient.
Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que les médecins, si vous voulez, ont tendance un peu à nous la jouer ces derniers temps, le chantage à l'émotion, avec des images au coup de poing, le tri, etc. C'est pas non plus leur boulot, si vous voulez.
D'accord
avec la remarque de Paul.
Conclusion avec vous peut-être, Éric Revel.
Oui, y a un terme, il y a un point central soulevé par Paul, qui est l'acceptabilité des mesures contraignantes. Y a un vrai souci maintenant en France, est-ce qu'on va supporter longtemps encore ces mesures contraignantes ? Et moi, je lis ça de manière très étroite à la crédibilité de la parole politique. C'est-à-dire que plus la parole politique se décrédibilise, moins l'acceptabilité sociale des mesures contraignantes est forte. Et ça, c'est une évidence. Et on assiste à ce double mouvement que soulevait Paul, à mon avis, sans lier les deux. C'est-à-dire qu'on accepte de moins en moins parce qu'on écoute de moins en moins la parole politique et parce qu'on y croit de moins en moins.
Oui, c'est vrai. Merci à tous d'avoir participé. On va enchaîner justement sur l'un des autres sujets du jour. On va donner la parole à un politique, à une politique avec nous, Cécile. Hein.
Oui, on va revenir sur le projet de loi confortant les principes de la République qui est arrivé au Sénat hier, et Esther Benbassa est avec nous, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Esther Benbassa, vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien.
Sur ce que disait à l'instant Paul et puis nos éditorialistes aussi, sur d'une façon générale, la décrédibilisation parfois de la parole politique. Vous en avez conscience aussi ?
Oui, bien sûr. À force de parler tant, les gens se lassent, les solutions n'arrivent pas, c'est l'éternel tango, un jour on confine, le lendemain et le surlendemain on ne confine pas, un pas en avant, deux pas en arrière. Non, là il y a une seule solution, il faut vacciner.
Ouais.
Et voilà, maintenant ce n'est pas de discuter est-ce que AstraZeneca c'est mieux que Pfizer, etc. Il faut vacciner les gens qui ont besoin, les gens qui ont des comorbidités, puisqu'on on a déjà vacciné les personnes âgées, mais pas tout le monde. Et là, il faut changer de catégorie. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi des malades jeunes dans les hôpitaux. C'est le nouveau phénomène.
Avec le variant britannique. Le variant britannique qui contamine beaucoup plus. Et puis, il y a eu du relâchement. Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui ont toujours les gestes barrières et puis d'autres un petit peu moins parce que c'est long aussi, c'est difficile. Esther Benbassa, on va revenir aussi sur l'autre sujet du jour, qui est l'examen au Sénat du projet de loi confortant les principes de la République, puisqu'on n'a pas voulu appeler ça loi sur le séparatisme. Hier, nous avions à ce micro, on donne la parole à tout le monde, Stéphane Ravier, par exemple, qui disait « Quand je croise des milliers de femmes voilées, ça commence à me gêner car j'ai l'impression de ne plus être en France. » Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, Esther Benbassa, ce matin ?
Écoutez, je lui dirais, Monsieur Ravier, vous êtes toujours Monsieur Ravier, égal à vous-même, vous ne changez pas, alors écoutez, il faut... faut un peu écouter les autres et essayer d'avancer. Vous êtes dans vos obsessions. C'est vrai qu'il y a un danger de terrorisme, il y a du salafisme dans le pays. Tous les musulmans ne sont pas salafistes et qu'il y a une classe moyenne aussi musulmane qui est dans tous les secteurs de l'économie, dont les enfants étudient, travaillent, et que s'il faut vivre ensemble avec nos concitoyennes et concitoyens musulmans, il faut qu'on fasse aussi des efforts pour ne pas les stigmatiser.
Ouais, voilà,
parce que plus on stigmatise, plus les jeunes se replient sur eux-mêmes et le fanatisme, l'islamisme politique deviennent des solutions.
Il y a des radicalités de chaque côté, quoi, c'est ça. On se monte les uns contre les autres, ce que vous voulez dire, Esther Benbassa, on s'attaque. Ouais. Quelle est votre position, vous, sur le port du voile? Parce que là, il en est encore question avec la neutralité dans les services publics, pas forcément dans l'espace public, c'est la nuance. Quelle est votre position, vous?
Écoutez, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Darmanin, même jamais. Mais hier, j'ai été d'accord sur certaines parties de cette loi.
C'est-à-dire,
par exemple, nous avons discuté 6 heures du voile et du burkini. Franchement, le burkini, je ne sais pas combien de femmes portent le burkini pour se baigner. Bon, écoutez, là, c'est vraiment des choses qui sont très compliquées, certainement. Mais le ministre allait un peu dans le sens de ce qu'il disait Aristide Briand lors des débats pour la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il disait que, le vêtement, les signes religieux, à savoir toutes ces parties textiles, n'étaient pas intéressants. Et d'ailleurs, dans la loi, il n'y a aucun élément parlant du port du burkini, du voile, etc. Alors, le ministre ne voulait pas trop foncer. Il avait raison. Pour le burkini, il disait, il y a des règlements dans les piscines, on applique les règlements, on ne fait pas une loi pour ça. Telle piscine dira, notre règlement n'autorise pas de se baigner en short ni en burkini. Point. À la ligne. Là, on en fait un peu trop parce que c'est devenu un élément politique très important pour la droite qui n'a pas un programme et pour l'extrême droite aussi. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'on avance, on sera obligé.
Mais est-ce que le voile, le port du voile peut être aussi un élément politique puisque vous employez
bien
cette
sûr,
expression.
Bien sûr, bien sûr, mais il faut penser aussi que ça peut être des signes de pudeur, ça peut être aussi. Écoutez, les gens aujourd'hui ont une identité. Il ne faut pas supprimer toute spiritualité de l'espace public. Une femme qui a décidé de porter le voile pour des raisons personnelles, et nous n'allons pas lui faire un procès. Et puis les accompagnatrices, franchement, si vous regardez bien, s'il n'y avait plus d'accompagnatrices femmes, il n'y aurait pas des sorties scolaires, je ne sais pas qui
pourrait passer sa journée. Oui, c'est vrai, mais alors certains peuvent se dire, attention, c'est un risque de prosélytisme quoi, aussi quand ça touche l'école, et puis des enfants avec une influence quoi.
Oui, mais comment vous allez influencer des enfants dans l'autobus? Une sortie scolaire se fait, on va dans un musée, etc. Vous imaginez une mère en train de faire du prosélytisme et les gamins qui sont là, qui n'ont rien à faire, ils veulent s'amuser, ils regardent autour d'eux, etc. Même le ministre, là, je vous le dis, il n'était pas d'accord. Il faut pas non plus que nos relations avec nos concitoyens musulmans se dégradent parce que j'ai peur qu'il y ait vraiment un durcissement, une fuite de la société, etc. Ouais. Aujourd'hui, il faut se battre pour qu'il y ait moins de discrimination, pour que les jeunes issus de ces milieux aillent à l'école plus longtemps, qu'ils puissent acquérir un métier, qu'ils puissent avoir une vie normale comme tout le monde. Et voilà.
Se soumettre aussi aux lois de la République, Esther Benbah. Ça ne va pas de soi, parce qu'on l'a vu en fait quand il y a eu.
Dans mon discours.
Non mais je sais. Non mais comment on peut le faire? Parce que en fait c'est ça, c'est un des problèmes aujourd'hui quand même auprès d'une certaine jeunesse, hein, qui n'accepte pas les valeurs de la République avant les valeurs religieuses. C'est là où c'est quand même extrêmement difficile. Et j'imagine que vous-même vous avez peut-être du mal à aborder cette question. C'est difficile, hein, bien sûr.
Moi, j'ai été enseignante 44 ans, vous savez, ces questions, je les ai abordées, ces questions ne sont pas nouvelles. Quand un gamin dit « Ah oui, vous touchez le Coran en disant ça », il faut lui répondre, il faut former les enseignants aussi bien à la laïcité qu'au fait religieux, pas à la religion.
Oui, oui.
Au fait religieux, répondre aux enfants, mais oui, ben, le Coran, on peut le critiquer, on peut critiquer les religions, cela ne vous empêche pas de croire, de ne pas croire.
Malheureusement, c'est là où ça bloque dans certaines écoles, vous le savez.
Bien sûr. Et il faut former les enseignants. Il faut les former. Ils n'ont pas de réponse, c'est normal. Ils ont grandi dans des milieux qui s'étaient sécularisés depuis longtemps. Et les enseignants n'ont que les réponses qu'ils connaissent. Aujourd'hui, on a de nouvelles demandes, de nouvelles exigences. Il ne faut pas s'incliner devant ces demandes, il faut expliquer, aller loin, leur apprendre que la République est une sorte de mère qui protégerait ces jeunes de ceux qui leur arrivent. Ouais. Mais la République devrait devenir plus accueillante et les inclure aussi. Si on exclut, monsieur, on arrivera dans une société invivable.
Merci beaucoup, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, donc d'avoir été avec nous, notamment sur cette loi, sur projet de loi confortant les principes de la République. On était à l'école, on a abordé la jeunesse à l'instant. Oui. Eh bien, on va y revenir dans un instant avec nos deux invités.
Avec un sujet de santé publique, l'hyperactivité et le trouble de la concentration est souvent à l'école. Mais alors, c'est les adultes et les enfants. Environ 2 millions de personnes sont directement concernées en France par le trouble du déficit de...
Quels sont les symptômes?
Eh bien, on en parlera dans un instant.
Comment ça se manifeste, etc.
Et comment le soigner, surtout.
Oui, c'est ça, avec des témoignages. On va voir ça dans un instant.
À tout de suite.